Bonjour. Donc, je vais d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir invité pour cette conférence introductive sur l'éducation thérapeutique dans le système de santé pour cette 15e journée de l'Ipsen sur l'éducation thérapeutique en activité libérale. Et ce que je voudrais tout d'abord souligner, c'est que la prévention elle a longtemps été le parent pauvre de notre système de santé. L'éducation thérapeutique que l'on doit classer dans la prévention, même si elle est très proche de l'éducation thérapeutique, a également été le parent pauvre, mais que ces dernières années, il y a eu quand même un certain nombre d'évolutions relativement importantes dans ce domaine. Et je voudrais vous présenter mon exposé, d'une part en rappelant les évolutions importantes dans le domaine de l'éducation thérapeutique ces dernières années, et puis essayer de répondre à la question qui est posée, quelle éducation thérapeutique en activité libérale du point de vue de l'acteur de la santé publique, puisque je représente ici la Société française de santé publique. Alors, je ne reviendrai pas sur les définitions, car je considère que les différents acteurs les connaissent. Je voudrais simplement rappeler que 1988, c'est la première définition de l'OMS, que c'était très important, que l'OMS, à cette époque, a affirmé que l'éducation thérapeutique était un des trépieds fondamentaux de la prise en charge du diabète, et donc lié aux soins, et que c'était un élément fondateur de l'éducation thérapeutique. Et puis, on a eu une période, moi je dirais les années 80-90, où finalement l'éducation thérapeutique, elle était menée par des médecins spécialistes, diabétologues, pneumologues, beaucoup hospitaliers, et que c'était des médecins militants qui ont essayé de faire reconnaître une certaine forme de pratique, parce que confrontés à la maladie chronique, ils voyaient bien que si on voulait éviter des complications, il fallait s'inscrire dans des problématiques d'éducation thérapeutique, et en tout cas qu'on contribuait à améliorer la qualité de vie, en tout cas on aidait les patients à améliorer leur propre qualité de vie. Et puis, il y a eu la fin des années 90, donc vous voyez quand même, entre la définition de l'OMS et la prise en compte par la France d'un certain nombre d'éléments institutionnels sur l'éducation thérapeutique, il s'est passé une bonne dizaine d'années. Première reconnaissance institutionnelle, je dirais la circulaire Ménard sur le diabète, c'était important, qui organise la prise en charge du diabétique entre la ville et l'hôpital et qui positionne dans un texte officiel pour la première fois l'éducation thérapeutique, et c'est relativement important. La même année, on met en place l'accréditation, et un des critères des référentiels d'organisation et prise en charge est l'éducation thérapeutique. Et le libellé, c'est que le patient bénéficie d'actions d'éducation pour la santé correspond à ses besoins. C'est un changement majeur. Les hôpitaux sont dorénavant obligés tous les 4 ans de faire le point sur leurs activités d'éducation pour la santé, d'éducation thérapeutique du patient. Et ça crée des réflexions, ça crée des groupes de travail. Et c'est un point qui a quand même largement modifié la vision et la représentation de l'éducation thérapeutique du patient au sein de l'hôpital. 2000, le plan d'éducation pour la santé, dont un certain nombre de personnes ici ont largement participé, et qui va positionner, bien entendu, l'éducation thérapeutique du patient dans ce domaine-là, et rappeler, grosso modo, deux points importants. D'une part, si on veut que l'éducation thérapeutique du patient se développe, il faut la valoriser financièrement, et que d'autre part, si on veut qu'elle se développe, il faut développer la formation dans le cursus universitaire des professionnels de santé et d'autre part dans la formation continue. Et puis il y a eu la phase des plans de santé publique 2001-2002. Vous savez, il y en a eu beaucoup, il y en a eu 24, parfois critiqués, parfois appréciés, avec une démarche très volontariste, notamment sur une approche par pathologie. Et un fait marquant de cette époque-là, c'est que tous les plans qui concernaient les maladies chroniques ont tous intégré un programme d'action éducation thérapeutique du patient, et c'était un élément très important. Parallèlement et de manière très liée au plan, l'ANAES, à l'époque, est devenue haute autorité de santé, a été saisies pour faire des référentiels et des recommandations de pratiques cliniques. Et en tout cas, deux sont sorties à cette époque-là, une sur le diabète et une sur l'asthme, qui intégraient dans une recommandation de soins, pratiques cliniques, la dimension de l'éducation thérapeutique. Et je pense que là aussi, en termes de reconnaissance pour cette fonction, c'était un élément extrêmement important. Quand je disais que l'éducation thérapeutique, l'éducation pour la santé ou la prévention avait du mal à se faire jour dans notre pays, je voudrais simplement rappeler qu'il a fallu attendre la loi du 4 mars 2002, loi droit des malades et qualité du système de santé, pour voir, pour la première fois, une définition de la prévention dans le code de la santé publique en France. Donc c'est un élément extrêmement important. Parallèlement à ça, la loi du 4 mars donne une définition des réseaux de santé qui, eux non plus, n'étaient pas intégrés dans le code de la santé publique. Et la loi de financement de la sécurité sociale de 2002 va créer une enveloppe spécifique, la dotation nationale des réseaux, de manière à pouvoir financer des approches innovantes pouvant intégrer notamment des actions d'éducation pour la santé. 2004, la loi de santé publique, la grande loi de santé publique, plus d'un siècle après la première, parce que la première a eu lieu en 1902. Cette loi de santé publique rappelle le rôle de l'INPES et intègre très précisément l'éducation thérapeutique dans les missions de notre agence de prévention. Et puis, depuis quelques années, il y a eu toute une série de modifications, je vais passer rapidement, notamment le développement de diplômes d'université dans de nombreuses facultés de médecine qui forment des professionnels de santé, pas seulement médecins, de divers horizons. Et je crois que c'est un élément extrêmement structurant pour l'éducation thérapeutique. Et enfin, depuis tout récemment, pour ceux qui sont hospitaliers, je rappelle que maintenant, il y a une codification dans la T2A qui permet de coter, en plus du diagnostic principal, une activité d'éducation thérapeutique. Donc vous voyez que depuis 1999 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont été faites dans le domaine de l'éducation thérapeutique. Alors, je reviens sur le sujet un peu central qui est l'éducation thérapeutique en activité libérale. Et si j'ai fait cette introduction sur le système de santé, c'est que je pense qu'on ne peut pas séparer l'un et l'autre. D'abord, première réflexion générale, peut-on vraiment... Est-ce qu'il n'y a pas une certaine antinomie entre une activité libérale d'un médecin isolé dans son cabinet qui fonctionne au paiement à l'acte versus une éducation thérapeutique? Donc quand on regarde l'ensemble des définitions, on s'aperçoit que c'est une pratique pluridisciplinaire, pluriprofessionnelle et en tout cas qui s'adresse parfois à des groupes de patients. Et donc il faut essayer de réfléchir sur cette question pour avancer. Et tant qu'on n'a pas eu de pratiques innovantes, notamment inscrites dans une démarche de réseau, on n'a pas pu sortir de cette quadrature du cercle. Et finalement, les médecins faisaient plutôt de l'information que de l'éducation thérapeutique. Et donc c'est tout le travail d'innovation qui a été financé à la fois par le Fonds d'aide aux soins de la qualité de vie, le FACS, et la dotation des réseaux, qui a permis de faire des avancées dans ce domaine-là. Et je vous propose je vous propose quelques réflexions à la fois sur les réseaux et à la fois sur les démarches assurance maladie et mutuelle. Pratique en réseau. Ce qui est intéressant, c'est le décloisonnement du système de santé, c'est-à-dire qu'on va faire travailler plusieurs disciplines ensemble. Si on prend l'exemple du diabète, on voit bien qu'à la fois, il y a une logique ville et il y a une logique hôpital, mais il y a aussi pluriprofessionnel, parce qu'on peut très bien avoir des liens entre les diabétologues, les endocrinologues, les néphrologues, les podologues, etc., etc., les nutritionnistes, les diététiciens. Les expériences ont permis, notamment à travers des financements forfaitaires, de développer de l'éducation thérapeutique. Et je crois qu'on peut dire d'une manière générale que les expériences dans le domaine du diabète, dans le domaine de l'asthme, dans le domaine de la l'insuffisance cardiaque sont, pour beaucoup d'entre elles, extrêmement pertinentes et ont créé des avancées importantes. Puis il y a eu, alors je ne vais pas les décrire parce que je pense que ça va être fait au cours de la journée, il y a eu ce fameux rapport de l'IGAS 2006 que certains ont lu ici, qui, franchement, a fait un peu un effet douche froide pour beaucoup d'acteurs militants des réseaux et qui n'annonce rien de bon et pourrait être un peu caricatural par rapport à ce rapport qui est très général, qui aborde la question des réseaux à la fois par population, c'est-à-dire les différents âges de la vie, y compris la gériatrique, mais aussi qui aborde les aspects par pathologie, notamment le cancer, et bien sûr l'asthme, le diabète, etc., qui s'est interrogé de manière extrêmement nette sur la plus-value des réseaux, et la plus-value des réseaux par rapport au coût investi par l'assurance maladie et l'État dans ce domaine-là. Il a jugé, ce rapport, que les réseaux étaient trop centrés sur une pathologie et en tout cas trop expérimentales pour pouvoir diffuser d'une manière générale sur le système de soins. De plus, il annonce une fusion du FACS et de la dotation nationale des réseaux et une réduction d'enveloppe de 20%, ce qui fait dire à beaucoup d'acteurs des réseaux qu'on est sur un tournant du soutien des réseaux et la mobilisation de ces acteurs a été relativement importante dans ce domaine-là. Parallèlement, on voit naître notamment des acteurs de l'assurance maladie, de l'ensemble des branches et des mutuelles, des démarches qui s'inscrivent plus précisément dans le système de santé et qui ont même parfois aussi une activité en réseau. Alors la démarche pragmatique, je pense qu'elle va être aussi reprise, mais je vais être là aussi assez caricatural. Disons qu'il y a une maladie chronique, qu'il va y avoir une demande d'exonération du ticket modérateur. Cette demande d'exonération du ticket modérateur ouvre droit donc à la reconnaissance de l'ALD, d'affection de longue durée. Cette affection de longue durée, si on va jusqu'au bout, elle va donner de manière forfaitaire, disons, 3, 4, 5 séances d'éducation thérapeutique avec une approche forfaitaire qui va être réalisée par un acteur identifié ici, une mutuelle ou une assurance maladie, et qui va permettre donc une rémunération, charge à l'acteur qui fait l'éducation thérapeutique d'aller trouver des professionnels formés de multiples horizons, médecins et non-médecins, pour pouvoir faire cette éducation thérapeutique. Et donc, on voit bien que là, on a de la pluridisciplinarité, on a un milieu pluriprofessionnel et qu'on n'est pas si éloigné de la démarche des réseaux. Que l'assurance maladie et que les mutuelles se retrouvent une image de marque assez santé, notamment dans la gestion du risque, parce que finalement, s'occuper de prévention tertiaire, d'éviter les complications, c'est de la gestion du risque, et l'assurance maladie, en tout cas, s'y retrouve bien. Et en plus, ça donne du sens à cette consultation de prévention. Je ne sais pas si vous vous souvenez, elle est inscrite dans la loi de santé publique de 2004 et qui doit être mise en œuvre et dont tout le monde s'interroge. Qu'est-ce qu'on va faire de cette consultation de prévention demain ? Alors, le système, on voit bien qu'il est en place, qu'il se met un petit peu en place par rapport, de manière un peu différente par rapport au réseau, et on peut s'interroger sur ce nouveau schéma, qu'est-ce qu'il donne ? Consultation de prévention, donc en gros, des médecins qui vont faire du dépistage de facteurs de risque et de maladies chroniques, avec à la clé, s'il y a une reconnaissance de maladies chroniques, des forfaits d'éducation thérapeutique. Alors, je voudrais, moi, souligner quelques risques. Le premier risque, c'est d'arriver à une situation où, finalement, on dédouane totalement le médecin libéral de la pratique d'éducation thérapeutique, puisque, finalement, puisqu'il a fait le dépistage et que la personne a le droit à l'éducation thérapeutique, eh bien, de manière extrêmement prescriptive, il va prendre son ordonnance et écrire « séance d'éducation thérapeutique », appuyer sur le bouton, et on va arriver à un système où, finalement, le médecin libéral ne va pas changer sa pratique et va rentrer dans un système où il y aura des prestations supplémentaires qui vont être arrivées. Il y a le risque aussi de disqualifier le médecin traitant qui, finalement, n'est pas tellement formé à la nutrition, par exemple, si je prends cet exemple-là, avec des professionnels d'éducation thérapeutique qui, eux, vont être extrêmement pointus. Et on a le risque d'arriver à des discours qui peuvent être discordants entre ce que peut dire un médecin traitant et puis ce que va pouvoir soutenir les professionnels de l'éducation thérapeutique. Alors, on se dit que ce schéma, s'il est séduisant, il faut y faire attention parce qu'on ne peut pas arriver aujourd'hui à poursuivre la taylorisation importante de l'activité médicale. Le diagnostic, les soins, les examens complémentaires aux médecins et tout l'aspect relationnel à des professionnels de l'éducation thérapeutique. Il y a danger dans cette matière-là et donc il faut réfléchir sur la manière dont on peut arriver à faire en sorte que les médecins libéraux, quels qu'ils soient spécialistes ou médecins traitants, puissent s'investir dans de l'éducation thérapeutique. En tout cas, ne pas oublier que une grande partie de leur travail, c'est quand même de la relation médecin-patient et que c'est un aspect fondamental dans ce domaine-là. Et on voit alors survenir un certain nombre de propositions nouvelles. Alors, il y a les propositions les plus classiques, c'est l'acte d'éducation thérapeutique. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une véritable ouverture sur sortir de l'acte qui est généraliste et au même tarif pour tous les médecins, pour des actes à la carte. Je rappelle que, notamment dans le plan cancer, il y a la consultation longue de prévention. On pourrait imaginer que demain, il y ait une consultation d'éducation thérapeutique. Moi, je suis assez inquiet de cette orientation, parce que déjà, avec l'histoire du parcours de soins, Monsieur Tout-le-Monde ne sait plus très bien lorsqu'il va voir son médecin combien ça va coûter au quotidien et qu'il y a une certaine inquiétude et qu'une consultation d'une fois sur l'autre chez le même médecin peut varier si la personne a été adressée ou n'a pas été adressée par un médecin traitant. Et puis, il y a une proposition qui, dans le milieu de la santé publique, commence à beaucoup circuler, que je voudrais vous présenter. C'est ce qu'on qualifie, nous, de mandat de santé publique. Alors, qu'est-ce que c'est que le mandat de santé publique ? C'est de faire le constat aujourd'hui que la santé publique, depuis la crise du sang contaminé, s'est considérablement développée, qu'on a des agences sanitaires, qu'on voit bien qu'il y a des métiers de santé publique qui concernent bien entendu des médecins de santé publique spécialisés dans le domaine, mais qui concernent aussi les acteurs libéraux que l'on mobilise de plus en plus dans ce domaine-là. La preuve, c'est qu'on vous demande de faire de l'éducation thérapeutique, mais que quand on regarde les systèmes de surveillance de la grippe avec le GROG, on demande à des médecins libéraux de faire un travail de médecin sentinelle et donc de la surveillance. Et lorsqu'on regarde un tout petit peu plus loin à la HAS, à la Haute Autorité de Santé, on demande à des médecins libéraux de venir travailler en groupe de travail pour faire des recommandations de pratique clinique. Et qu'est-ce que c'est que de faire des recommandations si ce n'est de la santé publique ? Et donc, beaucoup de gens disent qu'il faut peut-être demain faire évoluer notre système de santé pour permettre aux médecins libéraux d'avoir un mandat de santé publique qui serait rémunéré de manière forfaitaire selon les accointances des uns et des autres. Il y en a qui vont être à l'aise pour faire de l'épidémiologie et un travail de médecin sentinelle. Il y en a qui vont être à l'aise pour faire de la sécurité sanitaire ou de la sécurité sanitaire environnementale, si je pense au saturnisme. Il y en a d'autres qui vont être à l'aise pour faire de l'éducation pour la santé et qui vont souhaiter intervenir, je ne sais pas, pour faire de l'éducation pour la santé dans les écoles ou dans les lycées. Et il y en a qui voudront faire de l'éducation thérapeutique du patient parce qu'ils se sentent à l'aise avec la gestion des maladies chroniques et qu'ils auront leur lieu de cabinets pour travailler, et s'ils travaillent en groupe, peut-être un lieu aussi de groupe pour faire de l'éducation thérapeutique et qui pourront intervenir chez les opérateurs d'éducation thérapeutique avec un mandat de santé publique. Voilà, donc c'est une idée qui court dans le milieu de la santé publique et dont je voulais vous faire part. Dernier point sur ma présentation, et j'en terminerai sur cette diapositive. L'éducation thérapeutique, ça a été très militant. C'est compris par vous, pas très bien compris encore par le milieu soignant, l'ensemble du milieu soignant, par les patients, pas vraiment non plus. Il y a un manque de lisibilité, il faut être éducatif avec eux pour qu'ils comprennent bien ce que c'est que l'éducation thérapeutique. Alors, lorsqu'elle est organisée par un opérateur connu, labellisé, ça va bien si on va à la mutuelle ou si on va à l'assurance maladie ou si on va dans un endroit qui est connu de longue date, pas de problème. Lorsqu'on va dans une association de loi de 1901, c'est autre chose parce que finalement, on ne sait pas où est-ce qu'on va. Et je vous rappelle que dans le domaine des comportements, aujourd'hui, fleurissent dans notre pays de multiples activités du type coaching, de type accompagnement personnel, dans lequel on n'arrive pas très bien à faire la part de ce qui est de l'activité réellement soignante et de ce qui est de l'activité un peu commerciale, de prise en charge du mal-être et sur lequel il faut être attentif. Donc je voudrais attirer votre attention sur le fait que nous avons aussi à être garants d'une qualité de l'éducation thérapeutique et de pouvoir assurer au patient qui va se confier pour pouvoir modifier ses comportements ou l'aider à modifier ses comportements à une structure sur le fait qu'il doit avoir l'assurance qu'il va rencontrer des professionnels sérieux qui ont un projet éducatif, qui vont faire un diagnostic éducatif et qui vont l'amener à modifier ses comportements. Merci de votre attention.